À suivre, un échange amical et informel autour de l'histoire du théâtre jeune public au Festival d'Avignon avec Laurence Abel-Rodet, adjointe à la jeunesse et à l'enseignement de la ville d'Avignon.
Je suis avignonnaise en premier, et d'où mon intérêt et pour le théâtre et pour cette maison Jean Villard, qui a été pour moi une des maisons d'accueil de cette ville et d'intérêt à tout point de vue. Ensuite, actuellement, je suis adjointe à la jeunesse et à l'enseignement de la ville d'Avignon, mais j'ai eu suffisamment d'intérêt pour l'histoire du festival pour avoir envie d'écrire un livre pour les jeunes sur l'histoire de Villard, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose de cet ordre-là. À un moment où j'ai été à l'accueil, à la buvette de cette maison pendant 8 ou 9 étés, et où je voyais que, et même les jeunes avignonnais n'avaient strictement aucune idée de qui était Jean Villard, demandaient si c'était dans cette maison qu'il habitait, enfin, un rapport à la mémoire qui était étrange, et je me disais, il y a beaucoup de spécialistes qui viennent ici, de gens qui connaissent déjà, mais il manque la petite marche, la petite chose qui ferait que les gens pourraient se l'approprier, ou même les profs le prendre pour faire travailler les collégiens, enfin travailler. La vie de Villard, pour moi, et l'histoire du festival, ça a quand même tellement fécondé cette ville, ça l'a tellement fait changer d'aspect, et y compris l'hiver, hein, quand même. C'est quand même une ville qui est assez habitée par le théâtre. Emmanuel Etis avait fait des études sur le public à Avignon, et le public à Avignon, il compte. Alors, bien entendu, c'est pas tout le monde, mais il y a une grande part des Avignonnais qui sont très, très friands, qui sont très demandeurs. Il y a 5 troupes permanentes, il y a 10 lieux permanents de théâtre. Quand dans une ville de 95 000 habitants, c'est quand même beaucoup. Voilà, tout ça, je le dis pour dire que je trouvais ça suffisamment important pour faire ce petit bouquin qui soit une vie romancée de Villard, avec du coup... tous les thèmes importants sur le théâtre populaire, sur ce qu'il avait porté ici et aussi au TNP. Et puis les combats et les douleurs de sa vie aussi. Et tout ça, donc ça a été publié il y a 5-6 ans déjà. Mais du coup, j'ai pu voir et être invitée par pas mal de collégiens, de classes. Et ça, j'ai beaucoup aimé la prolongation comme ça de parler de cette histoire-là. Et voilà pourquoi je suis très contente éventuellement de te parler d'un aspect de cette histoire aujourd'hui.
Et justement, cet aspect dont on veut parler, c'est les débuts du théâtre jeune public à Avignon. Est-ce que déjà, du temps de Villard, il y a des actions qui ont été menées dans ce sens-là, vers le jeune public ?
Alors, vraiment rien, c'est pas du tout ses préoccupations, ni en 47, ni encore pendant longtemps. D'abord de 47 à 51, c'est des programmations particulières. Ensuite, Jeanne Laurent lui demande de prendre en charge le TNP. Gérard Philippe a enfin accepté d'associer à lui. Et à partir de là, ça va être une association entre TNP et Avignon, des créations du TNP qui sont à jouer à Avignon la saison suivante et des créations à Avignon qui sont jouées au TNP l'année suivante. Donc tout ça est pour un public, certes, alors avec un souci d'exporter le théâtre dans les banlieues de Paris, avec des lieux où il a joué, puis l'exporter aussi à l'étranger. Mais il était tellement déjà dans ce souci de faire du théâtre, comme il appelait, un service public, hein, comme le gaz et l'électricité, comme il disait si souvent, que je pense que ça l'a complètement occupé. Et il a fallu que d'autres, et là c'est qu'en 63, à ma connaissance, alors, des gens qui étaient fervents du festival et aussi des comédiens. Et là, c'est la troupe qui a été formée par Jean Dasté à Saint-Étienne, qui a plusieurs fois aussi joué au festival, enfin plusieurs fois, qui en tout cas, ça faisait partie de la formation des comédiens de venir à Avignon, dont la propre fille de Jean Dasté, Catherine Dasté, qui était mariée avec Graham Wright, enfin, qui était une toute jeune femme mariée, elle avait, je crois, déjà un ou deux enfants. Et lui, il tournait comme le chanteur qu'on connaît. Et elle était quand même comédienne. Et le fait d'avoir des enfants et le fait de lire beaucoup de littérature pour la jeunesse lui a donné envie, elle, d'adapter des choses en théâtre pour les jeunes. Et elle a créé sa compagnie qui s'appelle La Pomme Verte, qui a été la première compagnie officiellement pour la jeunesse, invitée par Jean Villard Donc je pense que je ne me trompe pas quand je dis l'été 63. Ça peut être 64, faudra que tu vérifies, mais c'est autour de ça, 63 je pense.
D'accord, donc quand même déjà du temps de Jean Vilar, il y avait une programmation jeune public, même si ça arrivait une grosse dizaine d'années après les débuts du festival, 16 ans après. Et ensuite, est-ce que tu sais un peu ce qui s'est passé pour le jeune public ?
Je sais qu'elle est revenue. Je sais qu'ensuite, quand Vilar est mort, je ne sais pas, et ça j'aimerais bien le creuser, je ne sais pas si Paul Puot a eu ce même souci, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Il faudrait voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul Puot, le successeur de Vilar, vient quand même du milieu enseignant, du milieu éducation populaire, de la Ligue de l'enseignement, tout ça. Et donc, il est le souci du jeune public. Ça me paraîtrait aberrant qu'il n'ait pas continué. J'en suis presque sûre. Par contre, ce dont je suis sûre aussi, c'est que le IN ne l'a plus du tout fait pendant des années. En tout cas, sous Fèvre d'Arcier, je ne pense pas, mais il y a pu avoir des exceptions. Moi, pour avoir surveillé la programmation du festival de longues années, je dirais que c'est très récent. Alors avec Hortense Archambault et Vincent Baudrier, et puis encore plus avec Olivier Py, qui lui a très nettement une action en direction aussi ici à Avignon des quartiers, qui, alors là c'est là que j'interviens comme adjointe à l'enseignement, qui travaille avec nous pendant l'année pour ce qu'on appelle les ateliers périscolaires, c'est-à-dire le temps qui a été libéré de l'éducation nationale pour faire des activités artistiques, sportives et culturelles aux enfants. Et là, le festival intervient dans nos écoles, donc dans 4 de nos écoles, et puis après, tous les enfants de ces écoles sont emmenés voir un des spectacles ou qui va être créé ou qui vient d'être créé. Cette année, en septembre, ils verront ce qu'il y a eu à la chapelle des pénitents roulants cette année.
Est-ce qu'on peut dire qu'Olivier Pigny, encore une fois, il s'inscrit vraiment dans les traces de Jean Vilar ? J'ai l'impression que c'est une direction qui s'inspire vraiment de son héritage. Et c'est intéressant que tu dises donc, que ça a commencé avec Jean Vilar, même si ce n'est pas lui directement qui l'a insufflé, et qu'ensuite il y a eu un grand passage à vide et que ça revienne aujourd'hui.
En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait ce souci-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, il a fait un remarquable travail dans la cour d'honneur sur l'histoire du festival. Je pense que c'était pour le 60e. Et remarquable travail, il s'est beaucoup penché sur l'histoire de Vilar. Et je pense que il a vraiment, vraiment intégré et compris, mais pas seulement compris, il a envie d'être dans cet héritage-là avec la modernité qu'il revendique aussi. De dire que toutes ses intuitions étaient précieuses et urgentes et que l'urgence continue, ça j'en suis certaine. Et que pour le coup, alors est-ce qu'il a aussi pensé au jeune public dans ce sens-là ? Ça je ne peux pas te le dire. Sauf qu'il a le souci de l'éducation, de l'école du spectateur. Enfin, que ça commence tôt si on veut emmener les jeunes au théâtre et qu'il faut qu'ils aient l'habitude de voir de grandes et de belles choses le plus jeune possible.
Et justement, alors une question à l'adjointe à l'éducation, c'est quoi l'importance pour toi du théâtre jeune public ?
C'est important que les jeunes sachent qu'on veut s'adresser à eux et qu'on a des choses à leur dire, des histoires à leur raconter. Moi, je pense qu'on est des êtres de langage et que les histoires nous tissent, nous fondent et que ça serait quand même un comble qu'on laisse les enfants de côté dans cette histoire, parce que justement, les enfants sont les premières personnes à qui on raconte des histoires, ben, si on veut bien, mais c'est aussi vital pour eux que le lait qu'on leur donne. Pour moi, c'est fondateur du langage, de la pensée, mais aussi de la gestion de la peur, enfin de toutes les émotions. C'est par rapport aux histoires qu'on se constitue, oui, c'est ça. Et du coup, le théâtre, il est sa puissance 2 ou 3. Hein. Comme quand une histoire est un peu théâtralisée et qu'elle est racontée avec un peu de talent, elle va plus loin dans le cerveau de l'enfant que si elle est lue d'une façon plate. Et là, le théâtre, encore plus, je dirais. Et quand c'est réussi, il se passe vraiment quelque chose dont les enfants se souviennent. Parce que, alors, il y a une chose qui est quand même aussi très précieuse, c'est que les enfants, quand ils font une expérience comme ça, ils n'oublient pas. Je pense que à partir d'un certain âge, on a eu plus d'informations, on a davantage été nourri, gavé, peut-être parfois trop, et que on est moins fidèle. L'enfant a une fidélité énorme quand on pense à ses premières émotions, à ses premiers livres qui l'ont marqué, à ses premières pièces de théâtre, à des films, quoi. Donc, l'importance de lui donner des bonnes et des belles choses à cet âge-là, ben, ça me paraît être promesse de fonder des gamins qui vont, voilà, qui vont être des personnes humaines, quoi, qui vont être peut-être des citoyens. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais il y a beaucoup de vivre ensemble qui est en jeu dans toutes les histoires, hein. C'est de l'humanité qu'il s'agit toujours, donc voilà, quoi, indispensable à l'éducation, on peut dire comme ça.
Et toi, est-ce que tu as des grands souvenirs de spectacles jeune public?
Mamadou Diallo dans le Off, très 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 beau et magnifique, généreux spectacle d'un Sénégalais. On a commencé par les très bons conteurs. Ils sont beaucoup venus dans le Off, hein. Alors, parce que là, on n'a parlé que du Yin, mais le Off, il a très vite été très ouvert à tout ça. Ne serait-ce que parce que toutes les troupes essayaient de venir dans le Off pour se vendre, parce que c'est un marché. Et que alors ça, moi, depuis que j'habite Avignon, c'est-à-dire depuis 30 ans, ce qu'on a vu pour les enfants, c'était toujours dans le Off. Ça, c'est certain. Depuis, j'ai vu des trucs dans le Yin, mais oui, je te dis, en situation plus professionnelle, avec en accompagnatrice d'enfants, ou depuis que je suis adjointe et où je les ai accompagnés pour voir la jeune fille, le diable et le moulin de Olivier Py, voilà, qui était vraiment là aussi un conte transformé, hein, tu vois, c'est une belle matière, les contes, c'est pas pour rien qu'il a pris ça, il en a fait plusieurs, Olivier Py. C'était un des premier auteur, Olivier Py, qui a ouvert la collection Théâtre de l'École des Loisirs. Et ça, il y a 20 ans.
Pour préciser de quoi on parle, jeune public, c'est quelle tranche d'âge?
Jeune public, c'est pas maternel. Hein, quand on dit jeune public, je pense que ça commence... quand le festival travaille avec nous, il nous demande des cycles 3, ce qu'on appelle des cycles 3, c'est-à-dire à partir du CE2. Peuvent faire avant, mais c'est plus compliqué. C'est vraiment l'apanage du Off, et en particulier du théâtre pour enfants de Claire Villemar, qui est devenue scène nationale, hein, depuis l'an dernier, qui, elle, programme des spectacles à partir de 6 mois, des choses sensorielles. Alors elle a à cœur de programmer de 6 mois à l'adolescence, et depuis, elle aussi, 20 ans. Mais ça a lieu très fort du Off à Avignon, bien sûr.
C'est la maison du théâtre pour enfants de Montclar. Et qu'est-ce qu'on peut montrer à un enfant de 6 mois?
Un enfant de 6 mois, je pense qu'il est sensible à de la musique, à tout ce qui éveille les sens. C'est-à-dire, je pense que très souvent, c'est des spectacles musicaux qui jouent avec de la lumière et avec des chansons, des comptines, mais des comptines, par exemple, mises en... des jeux de doigts, des ongles chinoises, des choses comme ça. Et là, même un bébé, il est complètement épaté, quoi. Et ce sont des spectacles qui ne durent pas plus d'une demi-heure. C'est très adapté. Mais parfois, on est étonné. Des acrobaties. J'ai vu des gamins de 3 ans absolument scotchés par des acrobates un peu bonimenteurs, un peu qui parlaient un langage complètement inventé. Gromelot, tu sais, ils avaient... extrêmement drôle, ils étaient complètement sensibles à cet humour, ils comprenaient très bien ce qu'ils voulaient dire et ils disaient pas un mot de français, tu vois. Donc c'était un spectacle international, ça c'était génial, c'était au moins 5 ou 6 ans à la maison du théâtre pour enfants.
Et une dernière question peut-être pour revenir sur l'histoire du festival, j'ai l'impression que les premières politiques envers la jeunesse, elles se sont faites plutôt vers la tranche lycéen, jeune adulte, ouais, avec des tarifs jeunes. Comment ça s'est passé, en fait, la bascule pour être sensible aux enfants, plutôt, dès le primaire? C'est, comme tu disais, des initiatives vraiment individuelles, ou il y a aussi peut-être des politiques publiques, quelque chose qui vient plus de la politique culturelle qui s'est mise en place?
Je pense que tu as raison dans les deux sens. Je pense qu'il y a eu d'abord ce public adolescent, grand adolescent, lycéen, parce que leur grand souci, c'était d'abord de voir que le public vieillissait. Et donc, ils se sont interrogés sur leur programmation. Et très vite après, il y a eu aussi des demandes institutionnelles, mais aussi parce que ça remontait des professeurs et des collèges et des clubs de théâtre, et parce que ça a été quand même pas mal, tout ça a pas mal bougé hein, dans les 15 dernières années. Et il y a eu une initiative qui s'appelait la Belle Saison, qui a été lancée par le ministère de la Culture tout au long de l'année dernière, où il y a eu un état des lieux de tout ce qui se passe en France, partout, autour des spectacles vivants jeunes publics. Et à la suite de ça, par exemple, là, cette année et l'an dernier, c'était déjà le cas, 500 enfants venant de tous les coins de France sont venus à Avignon pour 3 jours de théâtre avec des pièces jeunes publics, mais aussi des ateliers. Voilà, devenir un spectateur intelligent, un peu comme des CMEA, mais pour les tout-petits, quoi. Ça, c'est intelligent et c'est bien qu'il y ait une demande. Et ça marche, hein, ça marche drôlement. Ça fait très plaisir. Et puis il y a un bal. Enfin, tout ça, c'est encore l'esprit de Villard. Hein. C'est ce qu'ils faisaient au TNP. Donc ces gamins qui viennent, ils voient des pièces, ils font des ateliers, ils font un bal. Et on est toujours dans la même histoire, quoi. Et ça, c'est comprendre que le théâtre, c'est une fête. Qu'on y va un peu comme une cérémonie. Tu sais, Hannah Arendt, elle a une phrase que j'adore. Elle dit l'attention, c'est la grâce de la pensée. Et ça, que les enfants soient capables de ça, c'est immense, en fait. Parce qu'il faut être capable de ça. On est dans une époque où les enfants sont très hyperactifs, très sollicités, sans arrêt, et ils veulent tout le temps prendre la parole et dire « moi je, et moi ça ». Et devant le théâtre, il y a « je fais taire ça, et j'écoute, et je suis capable d'attention ». Et rien que ça, c'est un cadeau immense à leur faire. Enfin, c'est, je pense, un apprentissage fondamental, quoi. C'est ce que j'essayais aussi dans les lectures à voix haute, dans les contes, mais au théâtre encore plus, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Laurence.